Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
La Bible, le livre le plus lu, le plus traduit dans le monde. Nos émissions Flash Bible nous entraînent à découvrir les différentes facettes de la Bible. Et aujourd'hui, Jacques-Daniel, vous avez choisi de nous présenter le livre du prophète Jérémie. Alors, à quelle époque il a été écrit, ce livre ?
Alors, Jérémie a commencé son ministère en 626 avant Jésus-Christ. Et c'était à l'époque du roi Josias. C'est une période troublée. Le peuple juif ne le sait pas encore, mais la belle Jérusalem, cette belle cité, le majestueux temple de Jérusalem, vivent leurs derniers instants. Et Jérémie n'est pas le seul, mais d'autres hommes inspirés par Dieu vont annoncer ce cataclysme. Parmi eux, Sophonie, Habacuc sont des écrits qu'on trouve dans la Bible. C'est en quelque sorte comme si un conte à rebours avait commencé. Jérémie est appelé par Dieu, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem ».
Alors, c'est quoi les raisons qui vont conduire à la destruction de Jérusalem ?
Alors, Jérémie va vraiment le souligner, la dimension spirituelle a un impact décisif sur la réalité personnelle, sociale et politique. Ainsi, au fil du temps, les Juifs se sont progressivement éloignés de Dieu. Les valeurs s'effritent. Alors que les villes voisines ont déjà été détruites par les Assyriens, les populations ont été déportées à des milliers de kilomètres, Jérusalem a profité d'une protection surnaturelle. On peut même se rappeler qu'à un moment donné, les armées assyriennes arrivent jusqu'au bord de la ville. Jérusalem va tomber et donc là, la prière du roi et puis la prière aussi des habitants fait que, surnaturellement, Jérusalem est épargnée. Mais avec l'éloignement spirituel des personnes, eh bien, ce dôme de protection est en train de se fissurer. Des prophètes comme Jérémie le voient et ils avertissent le peuple.
Donc un prophète, c'est une personne qui est capable de voir ce qui se passe dans l'invisible et voir aussi l'impact que ça aura pour l'avenir de sa ville ou du pays.
Oui, et être un prophète, c'est une vocation très difficile parce que vous percevez ce que d'autres ignorent. Donc c'est comme si vous êtes dans un train, mais vous êtes dans un bateau, puis vous savez, par exemple, comme à l'époque du Titanic, qu'il est en train de couler. Vous le savez, vous le voyez, mais les gens, eux, l'ignorent. Donc vous êtes dans une situation difficile. Et à l'époque de Jérémie, la population et les autorités voient que toute leur ville ne s'en sort pas si mal. Tout roule. Et il y a même certains religieux, même des gens qui se disent prophètes, qui annoncent que tout va s'améliorer. Donc tout va bien, vous êtes sur le bateau. Mais non, il n'y a pas de souci, c'est la fête, on peut y aller, etc. Mais Jérémie, lui, il voit une autre réalité. L'éloignement du cœur, de la nation, ça crée une brèche. Jérémie voit déjà les ruines du temple. Il voit déjà que le bateau coule. Il voit déjà qu'il a coulé et il est profondément affligé par ce qu'il discerne.
Donc être prophète, ce n'est pas un parcours de plaisir. Hein. Jérémie, visiblement, il en souffre.
Oui, et en plus de cette réalité, Jérémie va aussi percevoir la tristesse de Dieu. En plus de tout cela, il doit encore affronter les railleries, l'incrédulité et l'adversité de ses contemporains. On le frappe. À un moment donné, on va le jeter dans un puits. Ensuite, il est affamé, il passe à côté de la mort plusieurs fois. Tout cela, c'est dur à supporter. Et au début du chapitre 9, il va dire à Dieu qu'il aurait bien aimé avoir une autre vocation.
Et c'est là où il le formule ainsi. « Oh, si ma tête était remplie d'eau et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. » Jérémie utilise des propos vraiment imagés, hein, là.
Oui, alors c'était presque quelqu'un qui utilisait les techniques multimédia à son époque. Il va beaucoup utiliser des images et il prendra même des objets symboliques pour souligner son discours. Il utilisera une ceinture, un vase. Et pour illustrer ses réalités spirituelles, il portera des liens, donc il sera attaché. Il portera un joug qui était une grosse pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs pour les entraver. Lui-même, un homme, va porter ces choses-là, il sera attaché. Dans ses paroles, il va aussi utiliser des images symboliques. Il compare le peuple des Hébreux à une femme amoureuse qui délaisse son mari, à une vigne de bonne qualité, mais qui devient mauvaise. Il va prendre l'image d'un bel arbre, mais qui devient sec. Ou bien des enfants qui ont été soignés, puis qui deviennent rebelles. Et on peut lire dans ce sens le verset 13 du chapitre 13.
Donc encore une autre image, hein. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Donc c'est des paroles très imagées qui visent à réveiller la conscience du peuple.
Oui, alors Jérémie, Tout ce que Jérémie fait, c'est d'essayer d'amener le peuple à une prise de conscience. Alors il va dénoncer la violence, il va dénoncer les atrocités, les injustices. Et pour lui, le comble est atteint. Mais ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour Dieu aussi, le comble est atteint. Au chapitre 19 et 32, quand il s'exprime et de la part de Dieu, il dit « Sur les montagnes, ils ont bâti des idoles à Baal pour brûler leurs enfants au sacrifice, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit. » Ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ça, c'est vraiment le comble, c'est l'extrême, c'est le bout de l'atrocité. Les Juifs qui ont reçu la révélation du Dieu d'amour en viennent à jeter leurs enfants vivants dans des chaudières brûlantes. Et on peut imaginer ces enfants qui sont comme ça pris dans leur famille et qu'on jette dans les flammes. Ça arrivait partout et ça arrive encore dans certaines régions. Mais ce qui est impensable, c'est que ça arrive à l'endroit même, dans le peuple même, où Dieu s'est révélé comme un Dieu d'amour, comme un Dieu qui libère. Et Dieu va le dire, il ne peut pas imaginer un mal aussi grand. Donc c'est vraiment, il y a le mal qu'on peut concevoir, et ça c'est très intéressant, avec ces actions de ce type-là. Le mal a été plus loin que Dieu. C'est peut-être le seul endroit où l'homme peut dépasser Dieu, c'est quand il commet le mal, parce qu'il arrive dans quelque chose que Dieu même n'imagine pas.
Tellement c'est horrible.
Voilà.
Donc, avec de tels extrêmes, on comprend la douleur de Jérémie hein, face à la dérive spirituelle, morale de son époque. C'est quoi les impacts de ce mal dans le fonctionnement même du pays ?
Oui, alors beaucoup de personnes aujourd'hui, et je pense que pendant longtemps, considèrent que les problèmes du monde viennent de l'économie. On voit aujourd'hui, avec les crises financières, etc., il y a toutes sortes de théories. S'il y a des problèmes, c'est parce que les gens n'ont pas de ressources financières ou bien il y a des problèmes, etc. L'écologie aussi, c'est la pollution, etc., l'organisation sociale, la politique. En fait, souvent, on va mentionner un problème en partant de ces éléments-là. Mais Jérémie, lui, a une autre vision, et on pourrait même dire le texte biblique a une autre vision, c'est que le cœur du problème se situe dans la relation entre l'homme et Dieu. C'est l'élément pivot. C'est là que peuvent se situer les guérisons d'un pays, mais c'est là aussi que peut se situer la destruction d'un pays. Et Jérémie le dit, le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de juste dans la ville. Donc, ce n'est même pas une question de gagner ou pas de l'argent, ce n'est même pas ça, c'est de savoir, est-ce que les gens sont encore justes ? Est-ce qu'ils appliquent la justice ? Est-ce qu'ils ont le respect des autres ? Et c'est là, on peut lire à ce propos les paroles que Jérémie donne dans le chapitre 5.
Il dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité et je pardonne à Jérusalem. » C'est dire qu'il suffirait en fait d'une seule personne.
Oui, alors ça c'est absolument fou. Moi je suis toujours impressionné, il suffit qu'une personne fasse le mal pour polluer toute une région, pour, etc. Mais là on se rend compte que la justice a une portée encore plus grande, puisqu'un seul juste, vraiment juste, suffirait à sauver la ville de Jérusalem. Ça fait référence aussi à d'autres textes, d'autres expériences qu'a vécu par exemple Abraham. Jérémie ajoute dans ce même chapitre que les habitants refusent de se convertir et ils renient l'Éternel et ils disent même que Dieu n'existe pas.
Bon, on ne fait pas vraiment différemment de nos jours, hein. C'est une attitude finalement encore très moderne.
Oui, effectivement, et là, bon, c'est très dramatique puisque c'est quand même Jérusalem, c'est quand même la ville qui a reçu toute cette révélation. Mais c'est quelque chose de très fort qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que les hommes ne désirent plus avoir de référence. C'est là qu'on conteste ce que Dieu veut faire. Alors il y a les athées qui ne croient pas que Dieu existe, mais souvent ça va beaucoup plus profondément. C'est-à-dire on ne veut pas considérer qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'il y a un créateur et qui pourrait définir aussi ce qui est bien, ce qui est l'amour, ce qui est la justice, etc. Quand on éloigne Dieu et quand on chasse Dieu, comme c'était le cas à Jérusalem du temps de Jérémie, eh bien, l'objectif, c'est de dire, le centre, c'est moi, c'est mon plaisir, ce sont mes richesses, c'est ma vie personnelle, c'est peut-être ma société, peut-être mon peuple. Mais en dehors de toute référence à une espèce de règle, de référence sublime. Et qu'est-ce qui se passe quand on éloigne Dieu, quand on chasse Dieu ? Et on le voit très bien dans nos générations actuelles. Eh bien, c'est la corruption, c'est la cupidité qui gagne. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans le chapitre 8.
Et ce qu'on lit, c'est « Tous sont avides de gains, tous usent de tromperies. Cela touche le peuple, les puissants, les religieux, tous sont corrompus. » On pourrait dire que c'est une épidémie qui gagne toutes les couches de la société. Ça va conduire à des problèmes vraiment graves. Hein.
Oui, alors là, on peut vraiment saisir que, à cause de ces attitudes, et c'est là que le livre de Jérémie est très pertinent, parce que il va montrer cette attitude d'éloignement de Dieu, de révolte contre Dieu, d'adversité contre Dieu. Et Dieu continue de maintenir la ville, elle tient encore, mais le fil est en train de s'amenuiser. Et à un moment donné, il lâche. C'est ce qui arrive immanquablement si on persiste dans cette voie. Et là, la réalité va rejoindre exactement les paroles prophétiques de Jérémie. Et ça va être très très difficile, puisque en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est assiégée. Le temple est détruit et brûlé. C'est vraiment l'apocalypse, c'est des massacres effroyables. Et pour les Juifs, c'est un moment de désolation et de fin. En quelque sorte, le fil s'est brisé. La grâce de Dieu est arrivée en quelque sorte à son terme, sa patience. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus rien qui peut retenir la destruction.
Donc tout est fini, là, le mal a vraiment triomphé.
Alors c'est vrai qu'on est dans un temps très difficile, pour Jérémie aussi. Mais ce qui est excellent avec un vrai prophète, c'est qu'il voit loin. Et il y a quelque chose de paradoxal, parce que alors que les gens sont abattus, sans espoir, parce qu'ils viennent de voir que ces choses annoncées se sont réalisées, eh bien Jérémie a une autre attitude. Il annonce une future restauration et des temps de joie. Et pour manifester cette espérance, il va même aller jusqu'à acheter un champ. Donc vous imaginez la dévaluation, disons, tout le monde qui vend, qui cherche à sauver sa tête, etc. Plus personne n'a des projets immobiliers. Mais lui, Jérémie, il va acheter un champ comme un signe que quelque chose d'autre viendra. Et ça paraissait aussi incroyable, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de la guerre, de la destruction, et là, alors qu'avant ça allait bien, puis qu'il dit quelque chose de mauvais va arriver, quand ces choses mauvaises arrivent, tous les gens ont perdu l'espérance, mais lui, il a cette vision plus loin. Il va donner ces paroles extraordinaires qui se sont accomplies plus tard, « Je ramènerai les captifs ». Effectivement, les Juifs ont pu revenir dans leur pays en 539 avant Jésus-Christ, et même le temple a été reconstruit.
Jacques Daniel, nous arrivons à la fin de cette émission. Comment conclure avec le livre de Jérémie ?
Alors Jérémie a donné des paroles précises sur des villes et des régions. Il annonce aussi la venue de Jésus-Christ. On pourrait dire que globalement, le livre de Jérémie nous montre la pertinence du message biblique qui situe le centre de gravité, non pas dans le monde physique, dans le monde social, mais dans le monde spirituel. Bien que nous vivions, on pourrait dire biologiquement, et puis au milieu de villes, de cités, ce qui est déterminant, c'est ce qui est en Dieu. Et on pourrait même résumer son message par ces paroles que je vous invite à lire dans le chapitre 3 et qu'on trouve aussi dans le chapitre 4.
Tout d'abord au chapitre 3, « Revenez » et au chapitre 4, « Israël, si tu reviens ». Donc l'accent est vraiment mis sur le retour à Dieu.
Voilà. Et on peut dire que notre monde d'aujourd'hui, avec son évolution, ressemble beaucoup au monde de Jérémie. La majorité des gens refusent de considérer la présence de Dieu. On le met de côté, ou alors même on va vénérer des dieux cruels, etc. Quelque chose est en train de se fissurer. Les hommes cherchent des solutions, le monde va mal, les malheurs arrivent. Mais malgré cette menace, et malgré probablement les destructions comme l'Apocalypse l'annonce, où l'humanité va arriver à un moment de rupture complète, eh bien, comme le dit Jérémie aussi à la fin, il y a une espérance, c'est ce que dit aussi l'Apocalypse, il y a vraiment une espérance pour ceux qui se confient en Dieu, parce que malgré la méchanceté, ce n'est pas la méchanceté qui gagne, mais c'est cette grâce de Dieu qui triomphera.
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rocha. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301 Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.